Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio. Vous écoutez Familia Pod. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Ce m'est un grand plaisir que de vous compter des nôtres pour cette deuxième édition de la nouvelle série de Familia Pod, réalisée en collaboration avec Bible Ouverte, un site de l'association Parole Certaine, soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Le nombre important des téléchargements de ce programme nous dit beaucoup sur votre souci d'avoir des relations conjugales et familiales stables et heureuses. Avec le taux du divorce qui n'arrête pas de grimper partout ailleurs, les querelles de famille qui aboutissent trop souvent au meurtre, des enfants qui malheureusement sont toujours les grands perdants, plus que jamais, on se rend compte de la nécessité de trouver un meilleur remède pour guérir cette plaie qui ronge la cellule de base de la société, la famille. D'ici quelques instants, nous aurons nos amis de Bible Ouverte qui nous apporteront quelques précieux conseils au sujet de la communication dans le couple. Je suis votre serviteur, votre ami Franck Doristil qui vous parle. Et juste avant de céder le micro à nos amis Bernard et Cédric, nous allons vous permettre d'écouter l'artiste chrétien, le prédicateur de l'Évangile, Armando Gomez, dans un chant que nous avons choisi pour votre plus grand plaisir. À toutes et à tous, nous souhaitons une agréable écoute. Familia Pod, sur Ebenezer International.
C'est mon bien. C'est mon bien. M'approcher de lui, contempler son amour, vivre pour de Dieu, oui, c'est mon bien. C'est mon bien. Oh, c'est mon bien. C'est mon bien. Oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. C'est mon bien. De Dieu, oui, c'est mon bien. C'est mon bien. Oh, c'est mon bien. C'est mon bien. Oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu,
c'est mon bien. Très beau chant du pasteur Amando Gomez qui nous conduit vers nos deux intervenants, Bernard et Cédric, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Bonjour Cédric.
Bonjour Bernard.
Comme je voudrais pouvoir échanger en direct avec chacun des couples qui nous écoutent.
C'est tout au moins possible par courrier, par téléphone ou même par email.
Bien sûr. Heureusement quand même que les couples, eux, n'ont en général pas besoin de ces moyens modernes pour échanger entre eux. J'aimerais justement aujourd'hui leur parler de l'échange, du dialogue entre mari et femme.
Pour nous introduire dans le sujet, pourriez-vous d'abord résumer les sujets de ces deux premières rencontres ?
Volontiers. Nous avons parlé en premier de la base de l'unité conjugale, qui doit être Dieu. Ainsi, le couple connaîtra un lien complet, corps, âme et esprit, et un sauveur qui protégera le foyer. Puis, j'ai insisté sur la nécessité de cette unité à cause des dangers qui la menacent. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas examiné la façon pratique dont cette unité conjugale peut se vivre. Vous, par exemple, Cédric, dans le cadre de votre couple, quel échange d'opinions y a-t-il ? Votre dialogue avec l'épouse est-il profond, total, fréquent, transparent ?
Je le qualifierais de normal.
Bon, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Récemment, une jeune épouse me disait « Moi, pour certains sujets sentimentaux, je me confie davantage à ma voisine qu'à mon mari. » Une autre femme dira « Je vais voir ma mère, maman, maman. » Quant au mari, il dira parfois « L'échange. Ah, facile à dire. Moi, ça fait 15 jours que ma femme me boude. » Mais si le contact est mauvais, Jésus-Christ peut nous aider. Il est Dieu, il est le Créateur, le Sauveur du couple. Voici ce qu'il nous propose pour développer l'unité conjugale. Cédric, puis-je vous demander, s'il vous plaît, de lire dans l'Évangile Matthieu 18, 19, ce que Jésus dit ?
Bien volontiers. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
Ici, Jésus s'adresse à ses disciples. C'est donc valable pour chaque couple chrétien. Vous avez entendu, si deux d'entre vous s'accordent, puis demandent. S'accorder, c'est d'abord échanger nos avis entre époux. Puis demander, c'est la prière qui s'adresse à Dieu. S'accorder et prier sont deux aspects pratiques qui permettent l'unité. Nous examinerons la prière la fois prochaine. Aujourd'hui, voyons cet échange de plus près. Savez-vous que des sondages montrent que les couples, après un an de mariage déjà, ne passent plus en moyenne que 37 minutes par semaine en conversation privée significative. Des études dans 11 pays ont montré que les couples les plus heureux sont ceux qui se parlent le plus l'un à l'autre.
Oui, j'imagine que dire des banalités au conjoint comme « Comment vas-tu »« Est-ce que les enfants ont fini leurs devoirs ? » »« Ça va bien ton travail ? » »« As-tu acheté du pain ?» Tout cela reste une routine terriblement superficielle.
Superficielle et trompeuse. Pour être heureux, pour rester équilibré et uni, un couple a besoin d'entretiens profonds qui abordent tous les domaines, passé, présent, futur, un échange libre, régulier. Je dois reconnaître, hélas, que la plupart des conjoints à qui je rends visite n'ont pas découvert ce privilège. On entend plutôt dire « Mon mari, il ne me comprend pas, il n'en prend jamais le temps, ce n'est pas la peine. » Ma femme, une île mystérieuse dont j'essaye de faire le tour sans jamais pouvoir aborder. Ou bien, les deux ou une, nous parlons, mais avec le travail, les enfants, nous n'avons pas le temps d'échanger vraiment. Pourtant, cet échange est indispensable. Il enlève tout masque aux individus, le risque d'hypocrisie. Échanger nos avis amène la clarté, évite les malentendus. On arrive à se connaître vraiment, à comprendre les caractères à la lumière du passé vécu. L'échange entretient la vérité, donc la confiance.
Mais pour vous, quelles sont les conditions d'un échange en profondeur ?
Eh bien, il y a plusieurs conditions. La première condition paraît bête, c'est de vouloir cet échange. Ce n'est pas évident, ni toujours facile, car on s'habitue à la superficialité. Tant que ça marche, on continue. Certains couples finissent par se complaire dans ce repli sur soi. Tant que rien ne grince, on ne s'inquiète pas. Quand les tensions arrivent, hélas, c'est souvent trop tard. Toutefois, Dieu peut délivrer de cette situation. Mais il faut vouloir ce changement. Il faut la décision du cœur, chez le mari comme chez la femme. Cédric, voulez-vous lire encore cette invitation de Jésus en Matthieu 18, 15, s'il vous plaît?
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Vous entendez? Va! C'est là, cette décision d'aller pour s'entretenir avec votre frère, le mari ou l'épouse. Deuxième condition. Pour échanger, il faut s'exprimer.
Encore une lapalissade, me semble-t-il.
Pas tant que cela. Regardez, il y a des maris ou des femmes qui ont renoncé à exprimer le fond de leurs pensées sous prétexte que l'autre n'écoute pas, ne les comprend pas, qu'on va les juger, donc se moquer, les critiquer, provoquer la colère, et que, de toute façon, cela ne servira à rien. Donc, entre conjoints, ils vont coexister, mais se parler le moins possible, ou seulement pour des questions superficielles, indispensables.
Évidemment, avec de telles habitudes, la vraie unité ne se fera jamais.
Pourtant, voyez-vous, Dieu est très sensible à l'expression du cœur. La Bible dit dans Malachie 3, 16, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ne craignons donc pas de nous exprimer, de nous ouvrir l'un à l'autre, à cœur complètement ouvert. »
Peut-on envisager d'autres caractéristiques de cet échange?
Ben oui, une troisième condition. Pour échanger, il faut se comprendre. Alors revenons au texte biblique cité au début. Cédric, voulez-vous s'il vous plaît relire Matthieu 18, 19?
Bien sûr. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée.
Bien. S'accorder pour demander implique non seulement une conversation, une explication, mais l'échange qui mène à la compréhension mutuelle. On aboutira alors à la décision finale de prier ensemble. Or, bien souvent, les mots n'ont pas le même sens pour l'un comme pour l'autre. Ou bien le poids sentimental d'une affirmation diffère. Le degré d'importance d'un fait variera pour l'un par rapport à l'autre. Prenons donc le temps de bien nous comprendre. Cela m'amène à la quatrième condition. Pour échanger, il faut en prendre le temps. Le temps d'écouter surtout. Si l'on veut répondre de suite à l'autre pour classer l'affaire, on risque de le bloquer. Écoutons-le surtout. Pas plus tard que ce matin, ma femme a voulu évoquer longuement des souvenirs d'enfance durant la guerre. J'aurais pu rétorquer de suite oh, « c'est de la vieille histoire, sentimentale, inutile, faisons face à l'actualité quotidienne ». Mais j'ai compris qu'il s'agissait bel et bien de son vécu et de ce qui a forgé son caractère, ses réactions.
De ce que je vois, vous avez voulu prendre le temps de la comprendre un peu plus. Évidemment, si vous aviez répliqué à tort et à travers, votre épouse aurait pu se fermer, se sentir incomprise.
Certainement, certainement. D'ailleurs, Jésus-Christ nous donne de merveilleux exemples du temps qu'il a voulu prendre pour écouter, comprendre. Il s'est laissé déranger en pleine nuit, par exemple par un Nicodème. Il a écouté sa demande, a pris le temps de répondre. Un jour, Jésus, fatigué, affamé, assoiffé, était assis au bord d'un puits, n'ayant rien pour puiser. Il a quand même pris le temps d'écouter, de comprendre, puis de parler, de répondre à la détresse d'une femme samaritaine. Elle venait là pour puiser de l'eau. Alors, voyez, cinquièmement, pour échanger, il faut du courage. Cédric, puis-je vous demander encore de lire Matthieu 18, verset 15, s'il vous plaît ?
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Voilà, voilà qui montre le courage nécessaire. Je me souviens d'un homme qui me disait « Moi, pour avoir la paix dans ma famille, je ne parle jamais de tel sujet avec ma femme. » Ainsi, par souci de quiétude égoïste, on n'aborde que le domaine banal et l'on évite les sujets chargés d'émotions. Le problème reste complet, il n'est pas réglé. Il s'amplifie et s'aggrave avec les années. Il s'y ajoute de la rancune, de l'amertume, parce qu'on n'a pas eu le courage de l'aborder immédiatement. Non, il faut oser se dire les choses en face, de suite, simplement, calmement, selon la vérité qui est en Christ. Et ne l'oublions pas, Christ habite le cœur de chaque chrétien.
Ne pensez-vous pas justement que par amour, un conjoint n'aura pas le courage de dire la vérité à l'autre pour ne pas le blesser ?
Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi la sixième condition parle de l'humilité indispensable. Voyez-vous, Jésus en donne encore l'exemple. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. L'action humble de l'un entraînera la réaction humble de l'autre. Au contraire, si vous répondez en colère, grossier, avec injures, menaces et violences, si vous êtes porté à crier, cela provoquera chez l'autre des réactions identiques. L'humilité. Jésus était grand parce qu'il était humble. Pourtant, il est Dieu. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est petit, humble. Mais Cédric, vous parliez tout à l'heure de l'amour. À ne pas oublier, c'est capital. C'est la septième et dernière condition, mais non la moindre. Pour échanger, il faut s'aimer. Le Dieu qui nous a tant aimés a sacrifié son Fils pour pouvoir nous sauver. Et si nous avons demandé à Dieu de nous sauver par Jésus-Christ, le Fils de Dieu habite alors dans nos cœurs par son Esprit. Or, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5. Nous serons alors secourus pour nous aimer entre conjoints à la façon dont Dieu nous aime. Si l'épouse est soumise à son mari dans l'amour, si elle respecte son mari dans l'amour, comme elle obéit à Christ en confiance, par reconnaissance et par amour. Si, de son côté, l'époux aime sa femme, comme le Christ a aimé les âmes qu'il voulait sauver, et si l'époux se donne pour son épouse, comme le Christ s'est sacrifié, alors cet amour réciproque changera la qualité des relations du couple.
Ne pensez-vous pas que nous aurions pu parler de l'amour au départ comme condition première ?
Oui, oui, certainement. Vous avez raison. L'ordre donné ici n'est pas un ordre décroissant dans l'importance.
Alors, vous permettez, je vais essayer de résumer ce que l'on a vu et mettrai l'amour en premier.
Bon, c'est parfait. Allez-y, Cédric.
L'amour véritable est une vertu venant de Dieu, 1. Il nous portera à vouloir l'échange comme nous l'avons vu, et de 2. 3. Il nous aidera à nous exprimer librement l'un envers l'autre, 4. L'amour nous portera à nous comprendre, car tout être humain a besoin d'être aimé et compris, 5. L'amour nous fera prendre le temps de nous comprendre. Et 6. Il nous en fournira le courage. 7. L'amour s'exprimera dans l'humilité.
Bravo, bravo, bien résumé. Mais il y a plus encore. L'amour conduira à pardonner les erreurs de l'autre. Chaque fois qu'il y aura eu un tort reconnu et avoué, nous serons invités à pardonner, à délaisser toute amertume, rancune ou suspicion. Au lieu d'entretenir la rancune en ressassant le passé, nous serons invités à oublier même le souvenir des fautes passées. Pardonner à l'exemple du pardon divin. Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités » Hébreux 10, 17. Pardonnons en considérant les vertus du sang de Christ. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Par ailleurs, entre mari et femme, il y aura toujours des différences, ne l'oublions pas, différences qui viennent de la nature de l'homme et de la femme, qui n'est pas identique, différences provenant du physique, du psychisme et du caractère, différences d'éducation aussi, de culture, de niveau d'instruction, de race, de langue maternelle peut-être, différences d'expériences faites dans le passé ou d'influence de l'entourage. Toutes ces différences peuvent, doivent faire l'objet des échanges. Il faut les reconnaître, il faut les accepter, il faut s'en souvenir dans les relations de tous les jours.
Bien, merci Bernard Scheliger. En conclusion, que suggérez-vous pratiquement aux couples qui nous entendent aujourd'hui ?
Eh bien, maris et femmes, prenez le temps d'échanges profonds, profonds, approfondis entre vous. Demandez le secours de Dieu, vous l'aurez. Souvenez-vous de cette formidable promesse de Dieu, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Et dernière suggestion, apprenez ce verset par cœur. Il vous sera très utile.
Avant d'aborder la deuxième partie de l'émission, prenons une pause avec l'artiste Léa Vincent. Lettre à mon Père. Bonne audition à vous tous.
bien à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel.
Deuxième partie de cette émission. Familia Pod.
Lors de notre dernier entretien, nous avons parlé de l'échange entre conjoints. Depuis, avez-vous pu prendre le temps de vous parler, de partager entre vous des sujets importants, de vous accorder pour progresser dans votre relation avec Dieu, pour lire ensemble la Bible? Elle est la parole de Dieu, seule source de la foi véritable. La Bible va développer votre connaissance de Dieu. Elle fortifiera donc votre confiance en lui. Puis, votre foi commune développera votre unité conjugale, parce que vous dépendrez d'un Père céleste qui vous aime et ne demande qu'à protéger, à diriger votre vie à deux de façon parfaite. Si c'est là votre expérience, tant mieux! Vous en serez bénis. Sinon, nous allons aujourd'hui traiter de la prière. Elle vous aidera à progresser.
En effet, Bernard Scheidegger, il convient de rappeler en effet la promesse de Jésus au départ de votre exposé. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Vous aviez même proposé d'apprendre ce verset par cœur.
Très bien, Cédric. En effet, nous parlions de s'accorder d'abord, d'échanger entre conjoints, avec toutes les conditions qu'implique un échange profond et complet, s'accorder pour demander. Là, il s'agit de la prière à deux. S'accorder, l'unité dans le couple, va conduire tout naturellement à prier ensemble.
Prier ensemble en couple, au fait, ça peut paraître à certains de nos auditeurs un peu étrange.
Étrange? Oui, pour qui n'aurait pas la foi. Là, je comprendrais. Mais pour qui a Dieu comme Père céleste? Mais c'est tout naturel. Serait-il étrange que des enfants, frères et sœurs, se gênent pour parler ensemble à leur papa? Étrange encore pour des conjoints qui, par gêne, par absence de cet échange profond dont nous parlions, n'aurait l'habitude que de prier à titre individuel? Quand personnellement on s'adresse à Dieu dans le silence de son cœur, c'est déjà bien. C'est possible, évidemment, mais il y a bien mieux. Prier ensemble à haute voix. Voilà qui apportera à votre vie de couple une nouvelle dimension, extrêmement bénie, la dimension spirituelle que Dieu veut.
Mais Bernard, vous suggérez ici une prière commune apprise par cœur ou lue en même temps par les deux conjoints comme le Notre Père?
Non, non. Le Notre Père, c'est vrai, est une excellente prière, enseignée par le Seigneur lui-même. Mais la répéter ensemble par cœur sans cesse risque de devenir artificielle et routinier. D'ailleurs, Jésus explique « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens » qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Matthieu 6, 7 et 8.
Donc, si je comprends bien, la Bible nous invite à se mettre ensemble pour exprimer à haute voix, mais chacun à son tour, des demandes personnelles?
Oui, Jésus a dit, s'accorder sur la terre pour demander une chose quelconque au Père Céleste qui la donnera. Cette chose quelconque peut avoir plusieurs aspects que l'on présentera à Dieu en détail, à tour de rôle, comme la naissance, la santé des enfants, leur éducation, leur protection dans la rue, leurs études, leur choix d'un métier, la construction de leur avenir. Ma femme et moi, nous avons prié pour nos enfants avant même leur conception. Chose quelconque, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine. Prier pour les divers aspects de la vie conjugale, les facettes du travail professionnel de l'un ou de l'autre, les besoins matériels, notre budget, les achats intelligents et réfléchis. Dieu aimerait là aussi nous conseiller, nous guider.
Vous suggérez donc que l'on peut tout dire à Dieu, parler de tous les sujets, même des plus intimes?
Exactement. Prier ensemble, entre mari et femme, c'est démontrer à Dieu notre confiance, notre dépendance de lui, comme d'un père qui en est digne. Car il est plein d'amour, d'attention, de soins, un père parfait qui cherche vraiment notre bien.
Mais est-il possible de s'approcher d'un Dieu saint ainsi directement? N'est-ce pas un peu osé, gonflé?
Là encore, Cédric, la Bible nous explique le secret. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Et Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Donc, le chrétien pourra venir prier le Père, mais il le fera toujours au nom de Jésus. Jésus étant le trait d'union, le pont, le seul chemin qui nous permet d'accéder au Père, le divin coup de piston, si vous me permettez l'expression, qui nous mène au personnage le plus élevé.
Mais pourquoi ?
Parce que Jésus est Dieu. Il s'est fait homme sur terre pour mourir à notre place, pour expier notre péché. Ainsi, il est le seul qui peut nous rendre agréable au Père, le seul qui était parfait pour que son sacrifice soit reconnu, le seul encore qui a pu payer la rançon de notre culpabilité à la croix, le seul qui a vaincu la mort, le seul que Dieu a accepté en le ressuscitant des morts, le seul qui, ayant aussi cette dimension divine éternelle et sainte, était valable pour subir le jugement de Dieu à notre place. Dans ces quelques heures de la croix, il a été séparé du Père pour que nous soyons unis au Père à tout jamais. Donc, le seul qui nous permet d'obtenir la grâce et le pardon de Dieu, le seul qui, vivant, monté à la droite de Dieu, intercède en notre faveur encore aujourd'hui, le seul avocat dont le Père accepte la plaidoirie en notre faveur.
En fait, je réalise que lorsque je prie Dieu avec ma femme et que nous terminons notre prière par l'expression « Au nom de Jésus, Amen », cela n'est pas du tout une formule magique vide de sens.
Ah, pas du tout. C'est en effet rappeler chaque fois que si notre prière atteint le Père, elle est agréée à cause du Christ. D'ailleurs, Cédric, pour répondre mieux à votre question, lisez encore, si vous permettez, l'invitation de la Bible dans Hébreux 4, 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En effet, c'est encourageant. Dieu est donc pleinement accessible dans la prière?
Pleinement, pleinement. C'est un privilège que beaucoup de couples découvrent, s'approcher ensemble du trône divin. Et cela décuple leur unité, leur joie, leur amour l'un pour l'autre, comme leur amour pour leur Père Céleste.
Il y a quand même parfois des obstacles, j'en vois. En tout cas, un, la timidité. On se gêne parfois, même entre couples, l'orgueil, la crainte d'être jugé, critiqué, de ne pas savoir bien s'exprimer.
C'est vrai, vous avez raison, mais là encore, on peut prier Dieu pour qu'il ôte ces obstacles. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, dit la Bible. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. 2 Timothée 1, 7 et 8.
C'est vrai, Bernard. Vu sous cet angle, il n'y a plus d'excuses. Et c'est un témoignage rendu à la gloire de Dieu que de prier avec son conjoint. Mais il faut au préalable ce profond échange dans le couple. Nous en parlions la dernière fois. Sinon, une partie du mari ou de la femme reste cachée à l'autre et la prière est bloquée.
Exactement. C'est pourquoi j'insiste. Amis qui nous écoutez, ici la Bible parle aux époux. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, 7.
À propos d'obstacles, il y en a sans doute d'autres?
Hélas, oui. Tout simplement le péché, une faute cachée, une mauvaise habitude tolérée et camouflée, un simple mensonge. Tenez, un jour, une épouse dont j'admirais le chemisier me disait « Oh, joli, oui, mais je l'ai payé tant. Chut, n'en parlez pas à mon mari, car je lui ai indiqué la moitié de ce prix-là. » Eh bien, il aurait suffi que ce mari passe devant le magasin, considère le même chemisier et son prix pour s'apercevoir de la supercherie, d'où dispute, manque de confiance, obstacle à la prière.
En effet, se tenir devant Dieu, donc, c'est dire à l'autre la vérité, tout franchement. Puis il se faut, j'imagine, se dévoiler à l'autre honnêtement ses faiblesses, ses défauts, ses faillites.
Voilà, voilà. C'est là que le secours de Dieu sera nécessaire. Il nous encourage à nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Mais, à l'inverse, quel drame, quelle erreur, quelle faillite! Quel mauvais calcul quand, conscient d'un péché, parfois grave, comme une infidélité conjugale, on le maintient camouflé, croyant y gagner. Toute la vie conjugale en sera empestée, la prière bloquée, la bénédiction arrêtée. Même les enfants et tout l'entourage en pâtiront. Cédric, lisez, si vous voulez bien, ces deux invitations de la Bible.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13 et « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Jacques 5, 16.
Il est bien question d'être guéri. Dieu veut non seulement nous pardonner, mais que nous nous pardonnions nos fautes les uns envers les autres. Et non seulement que nous nous pardonnions, mais que nous soyons aussi guéris, délivrés, transformés. Je ne puis transformer ma femme, voyez-vous, et elle ne peut, hélas, me transformer. Pourtant, cela fait 40 ans et plus que nous sommes mariés, mais là est le privilège infini d'avoir Jésus-Christ au centre de notre couple. Lui seul peut guérir, transformer, unir, exaucer.
Est-ce qu'il existe encore d'autres obstacles possibles à la prière?
Eh bien, monsieur, madame, couple qui êtes là, vous avez devant Dieu clarifié tout obstacle qui gênait votre prière. Vous avez échangé, vous vous êtes expliqué, vous en avez pris tout le temps voulu. Vous vous êtes pardonné réciproquement et vous ressentez encore de la difficulté à prier ensemble? Que se passe-t-il? Rappelez-vous que la prière est un exercice spirituel. Cela ne vient pas naturellement. Cela s'apprend, cela s'entraîne. L'Esprit de Dieu vous aidera. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, est-il écrit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26.
Dans une précédente émission, nous avions mentionné le diable, ennemi de l'unité conjugale. Est-ce qu'il ne serait pas aussi l'ennemi dans nos prières?
Certes, certes. D'autant plus que la prière va de pair avec la foi. La prière va déclencher de la part de Dieu de grands exaucements, de grandes bénédictions. Satan cherchera donc à contester, à s'opposer à notre vie de prière dans le couple. Il fera tout pour l'arrêter, sachons-le. Mais nous sommes du côté du vainqueur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous, nous dit la Bible, dans Jacques 4, 7.
Dieu assure donc une victoire.
Une victoire totale. Soumettez-vous donc à Dieu. Ceci introduit un dernier fait. Pour s'accorder pleinement entre mari et femme et pouvoir prier ensemble, il faut se soumettre à Christ. On peut sembler le faire, mais cela reste intellectuel, théorique. Nous pouvons rester un sujet insoumis. Prier, c'est donc désirer la sainteté dans notre être tout entier. On ne peut donc en même temps perpétuer une vie de péché. Prier, c'est reconnaître à Dieu le droit de propriété sur nos vies. N'a-t-il pas payé le prix de notre rachat à la croix? En Jésus, il a le droit de piloter notre existence. Si vous appartenez à Christ, vous n'êtes pas seulement des conjoints mariés, vous êtes des enfants d'un même Père céleste. Donc prier, c'est désirer sa volonté plutôt que la nôtre. C'est renoncer à soi-même pour vivre de lui, de Christ. Le Seigneur Jésus l'affirme. Cédric, si vous permettez, voulez-vous lire encore, s'il vous plaît, Luc 9, 23 et 24.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Amis auditeurs, est-ce bien là votre désir? Si oui, vous ne le regretterez jamais. La conclusion, c'est vous qui allez la constituer, la vivre. Voyez avec votre conjoint pourquoi vous n'avez pas pu prier ensemble jusqu'ici, ou si peu, dirons-nous. Demandez à Dieu d'enlever ces obstacles. Décidez avec votre conjoint de prier régulièrement. Puis, choisissez le moment convenable dans votre programme journalier, peut-être le matin tôt. Ou bien, quand les enfants seront au lit, demandez-leur de ne pas vous déranger durant ce temps-là. Ou incluez-les à vos prières. Éteignez la télévision. Débranchez votre portable et le téléphone. Évitez les obstacles, visites, sonneries. Vous parlez à Dieu. Il est au-dessus de tout et de tous. Il est plus important que tout. Puis, parlez-lui comme un enfant parle à son papa. Persévérez chaque jour. Ne vous lassez pas, ni ne vous découragez. Il n'y a pas de formule spéciale ou compliquée. Lisez d'abord quelques versets de la Bible, si vous voulez. Cela vous orientera, vous encouragera. Ce moment n'a pas besoin de durer des heures. Dieu sait votre programme chargé. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. Prier, c'est parler à Dieu. Vous savez parler, donc vous savez prier. Priez l'un après l'autre à haute voix. Ce que l'Esprit de Dieu vous inspirera de dire. Prier en famille, dans le couple, sera sans doute le premier pas avant de prier à une réunion de prière avec d'autres chrétiens. Mais la prière des autres vous entraînera dans l'intercession, la supplication, mais aussi dans l'adoration, la louange, la reconnaissance à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis, vous expérimenterez ce que Jésus-Christ a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 19 et 20. À bientôt, chers amis.
À bientôt également, Bernard et Cédric. Une dernière pause avant de clore cette page avec l'artiste Brigitte Manusso. Familiapod.
Tu veux prier pour les autres, il te faut d'abord les aimer. Pas seulement ceux qui se comportent avec tendresse et charité. Aimer d'un amour qui te brûle et se propage autour de toi. Et quand le jour mauvais arrive, brûler plus fort quoi qu'il en soit. Je crie à toi mon Dieu, mon Père, je suis incapable d'aimer. J'ai besoin que tu me libères de la nature de mon péché. Je suis né Seigneur pour te plaire et je veux aimer comme toi. Je fais tout ce que je peux faire, mais moi je n'y arrive pas. Si tu veux aimer comme j'aime, mon enfant, tu dois renoncer à tes idées, à tes repères, tes principes et ta volonté. Revêt-toi de miséricorde, de tendresse et d'humilité. Et lorsqu'arrive la discorde, s'il te plaît, range ton épée. Tu es comme un cheval sauvage qui se cabre à ma volonté. Vois-tu tous ces accès de rage, empêche ton cœur de m'écouter. Avec moi la vie est si belle pour les enfants obéissants, mais sache que les âmes rebelles n'entreront pas dans ton cœur. Si tu veux gagner la bataille, il te suffit de m'appeler. Mon amour brûlera la paille de ton caractère entêté. Entraîne-toi à la patience, consacre-toi à la bonté. Le parfum de la bienveillance gardera tes lèvres fermées. Si tu savais combien je t'aime et l'avenir que j'ai pour toi, tu oublieras vite tes craintes et te lancerais au combat. Et toi et le chemin qui mène sur ma haute montagne sacrée, baisse la porte que seuls prennent ceux qui veulent vraiment m'adorer. J'ai besoin de ces temps de grâce où ton cœur soupire après moi. Quand tu te tiens devant ma face et que l'on se parle tout bas, j'aime le parfum de ta louange, les mots que tu choisis pour moi, tes larmes, tes joies et tes silences, car tout me rapproche de toi. Je crie à toi mon Dieu, mon Père, car je veux toujours plus de toi, de ton onction, de ta lumière, de ton regard brûlant sur moi. Que ma vie soit une prière, un parfum répandu pour toi, un miroir reflétant mon Père, un sourire qui parle du roi, un sourire qui parle de toi.
Familia Bordo. Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Familia Pod, un programme réalisé en collaboration avec Bible Ouverte, un site de l'association Parole Certaine, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Et pour en savoir plus, consultez le site www.bible-ouverte.ch. www.bible-ouverte.ch et pour tout autre contact, www.bible-ouverte.ch/contact.html. Je répète, www.bible-ouverte.ch/contact.html. Et juste avant de partir, je voudrais remercier tous nos amis de l'association Parole Certaine pour leur collaboration avec la radio Ebenezer International et nous envoyons nos plus fraternelles salutations au président de cette association, M. François Cuche, ainsi que son collaborateur, M. Robert Bornan. Je remercie également tous les artistes qui nous ont bénis par leur chant, tels que le pasteur Armando Gomez, l'artiste Léa Vincent et l'artiste Brigitte Manusso. Sans oublier la société Sephora Musique de la Vie pour cette version instrumentale que vous écoutez en arrière-plan. Et à vous tous, fidèles auditeurs, fidèles auditrices, qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de FamiliaPod avec votre ami, votre serviteur, Franck Doristil, qui vous dit merci et au revoir. Vous venez d'écouter FamiliaPod sur la radio Ebenezer International, The Digital Gospel Channel, your station.
Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan